Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce MIG. Bienvenue à la Générale. Je vois des têtes que je connais pas. Peut-être on va faire un petit mot d'introduction. Donc vous êtes à la Générale, qui est un lieu tenu par le collectif La Générale. Donc on est dans l'ancien conservatoire du 14e arrondissement à Paris, que La Générale occupe en ce moment. La Générale se définit comme un laboratoire artistique, politique, social. On reçoit des résidences, des chercheurs, des associations, des collectifs. Et puis, on tient aussi ce séminaire qui s'appelle le MIG. MIG pour Mardi informel de la Générale, qui a commencé pendant le deuxième confinement de 2020 autour d'une étude de la revue Pétrole Progrès et qui a évolué en cycle de conférences avec des sujets aussi divers que l'énergie, le technosolutionnisme, la nourriture, l'évasion fiscale, des problématiques art et sciences, les champignons, le champignon comme produit, industriel, solution à tous nos maux. Amazon, la typographie. Voilà.
On a pas une journée champignons la semaine prochaine ?
La semaine prochaine, oui. Avec Diane Chou et Ato Tanaka.
Et donc la semaine prochaine, on a une journée champignons avec Diane Chou et...
Atao Tanaka.
Atao
Tanaka.
Okay.
Et avec Nami, on va cuisiner des champignons.
Et avec Nami qui va cuisiner des champignons.
Du micro-dosing.
Ce soir, on reçoit Raphaël Bastide. Artiste numérique, musicien, performeur, développeur, typographe. Pour un projet qui s'appelle Être Script, que je vais découvrir en même temps que vous. Je l'ai lu, je crois, en anglais quand il a été tout juste publié sur le net. J'ai une petite publication qui en est à sa deuxième édition de 100 exemplaires entre les mains. Peut-être Raphaël nous en parlera après pendant les échanges. Et j'ai l'impression qu'il est prêt à démarrer sans plus attendre. Donc c'est la surprise.
Merci beaucoup à tout le monde d'être venu, ça me fait très très plaisir.
Très, très
malgré la pluie et tout. Je peux vous parler un petit peu de ce programme ou sinon je peux répondre à vos questions. C'est un peu selon ce que vous voulez.
Peut-être avant, est-ce que tu peux décrire le dispositif pour les gens qui sont à la radio et qui écoutent sur Pinode et qui ne savent pas ce qui s'est passé?
Oui. Alors en fait le dispositif c'est que j'ai un espèce de contrôleur MIDI qui s'appelle N-Sonic percussif, donc c'est un instrument de percussion. J'aime bien dire que c'est un djembé numérique, parce qu'il y a un petit côté loose. Mais c'est fait pour ça, c'est fait pour jouer à la main, c'est un truc circulaire avec je sais pas combien, mais des zones plus ou moins grosses sur lesquelles je peux déclencher des événements MIDI. Et j'ai fait un programme qui écoute ces événements MIDI et qui déclenche des sons, mais pas que. Ça déclenche aussi l'écriture d'une nouvelle qui s'appelle Être Script. Et donc sur ma table, il y a cette espèce de gros contrôleur MIDI, un petit contrôleur MIDI pour quelques effets, et puis c'est tout. Ma carte son et puis mon ordi que je ne touche pas. Voilà. Et puis je projette donc cette nouvelle qui s'écrit en même temps que je tape, en fonction que je tape. Donc je contrôle vraiment la frappe comme je pourrais contrôler avec un clavier. D'ailleurs ça part de là, ça part du clavier comme instrument percussif. Et donc au fur et à mesure des projets, ça finit par être simplement le clavier dénué de langage, mais juste comme vraiment à l'écoute des mains. Et la nouvelle parle d'un programme qui s'appelle Deval et qui parle à la première personne de son rapport au monde et qui parle en étant exécuté. Donc c'est lui qui est exécuté au sens informatique. Voilà.
Et donc au fur et à mesure que tu tapes, le texte s'affiche sur l'écran en rythme, et puis il y a aussi des indications de ce qui se passe en marge.
Oui, en fait, il y a le texte qui s'affiche en fonction de ma frappe. Plus je tape fort, plus il y a de caractères qui s'affichent. Donc si je tape un tout petit peu, il va y avoir un caractère. Si je tape très fort, il va y avoir entre 1 et 5 caractères. Donc ça me permet aussi de gérer, de jauger, de faire en fait une négociation entre ce que j'ai envie d'entendre et ce que j'ai envie d'écrire au niveau du temps et la gestion du temps. La nouvelle est finie, la nouvelle est préécrite, hein, elle ne se génère pas. Je tiens à le dire parce que parfois il peut y avoir des confusions. La nouvelle, elle est déjà écrite. Elle est écrite par moi, pas par un programme, quel qu'il soit. Non, mais parce que c'est important de le dire aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement du paratexte, c'est-à-dire dans les marges, il y a de temps en temps des petits bouts de code qui sont en fait... qui sont aussi écrits de la même manière, c'est-à-dire qu'en fonction de ma frappe. Et ces bouts de code vont déclencher des événements sonores, souvent des boucles simples, pour accompagner mon improvisation. Et donc, ils me permettent d'avoir un support, et ils permettent aussi de traverser des chapitres. Donc, il y a 6 chapitres, donc 6 ambiances un peu différentes, qui vont accompagner la nouvelle, qui est elle-même découpée. Et ces petits paratextes s'exécutent en temps réel. C'est-à-dire que c'est vraiment du live coding, mais je ne m'embête pas à taper les choses, elles sont préparées, comme un piano peut être préparé, et je les développe, et dès que j'ai fini la ligne, elles s'exécutent. Donc c'est du live coding sans se prendre la tête, on va dire, en se concentrant sur vraiment l'expressivité de l'instrument percussif, parce que le live coding, c'est quelque chose que je connais, et j'ai beaucoup de frustration de l'instant de la frappe, du moment de l'exécution d'un programme par rapport au moment de ce qu'on a envie d'entendre, en fait. C'est très très long, le live coding, et c'est très pénible. Mais c'est très cool aussi, mais je voulais garder un peu le meilleur des deux mondes.
Tu disais le texte n'a pas été écrit par une machine. Et je trouve que dans l'écriture, il y a un ton qui ne m'avait pas du tout frappé en anglais. Donc là, le texte était en français. Il est disponible en anglais, en français. Et sur l'écriture, il y a un ton qui m'a frappé, qui est l'inverse de ce que pourrait produire une machine. C'est-à-dire qu'il n'est ni faussement humain, ni mécanique. Il y a des variations d'émotions, d'expressions, même si c'est toujours à la première personne. Il fait lui aussi des montagnes, quoi, des hauts et des bas. Tu peux nous parler de la manière dont tu l'as écrit et peut-être aussi pourquoi, comment.
Ouais, ben en fait, je l'ai écrit. C'est mon premier projet d'écriture sérieux. En fait, c'est mon premier projet d'écriture. Je l'ai écrit dans un contexte très spécial. Donc, je viens d'avoir un bébé. Enfin, maintenant, ça fait 10 mois. Et donc, pendant que ce petit bébé était tout petit, je m'occupais des nuits et je pouvais ni jouer de la musique, ni utiliser mon ordinateur. Du coup, j'ai utilisé mon carnet. Je ne pouvais pas dessiner non plus parce qu'en fait, le dessin était gêné par les mouvements du bébé. Et en fait, je m'occupais du bébé la nuit. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais écrire un truc. Et puis j'ai commencé à écrire, et puis je me suis rendu compte que je prenais du plaisir par rapport à ça. Et donc cette variation d'émotion dont tu parles, elle doit vraiment correspondre à cette période très spéciale, qui est quand même un moment où les émotions se chamboulent complètement. Et du coup, il y a vraiment ce côté... C'est un projet que j'ai initié à la Maison de la Poésie de Rennes, avant que ma fille naisse, et puis que j'ai continué ensuite. La partie texte est venue après, mais la partie software, programme, est venue à la maison de la poésie de Rennes. Bizarrement, en fait. Quoique les deux sont du langage, mais... Et du coup, cette commande, en fait, cette résidence à la maison de la poésie de Rennes, je me suis un peu amusé à prendre les bottes d'un poète dans tout ce que ça a de romantique. Et en fait, j'ai vraiment aimé écrire. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire parler un programme à la première personne, et surtout un programme simple. Comme moi je les fais, comme moi je les aime, etc. Voilà. Et du coup, j'ai fait traduire ce texte par un humain traducteur que je remercie, qui est dans les crédits, que je vous montrerai tout à l'heure. Et je suis très content de l'avoir en bilingue parce que ça, j'aurais aimé. Je voulais pouvoir le performer dans les deux langues.
Ce programme qui parle, enfin qui écrit, enfin qui parle à la première personne, il fait quoi ?
Il fait ça. C'est ça. Ouais. C'est lui qui fait le lien entre ça, le texte, les boucles préparées et tout le reste, les changements de style, la mise en page de la typographie. C'est un programme web en fait, qui est à 80% en JavaScript et il s'appelle Deval. Et il est passé par plusieurs noms, comme le texte le dit, voilà. Mais c'est très classique pour un programme de passer par plusieurs noms, plusieurs phases. Et il a été fait un peu... il a été modifié, enfin, son identité a été un peu spécifiée au fur et à mesure du temps. Comme un texte, en fait, peut l'être.
Du coup, j'imagine que c'est un sacré apprentissage. Là où tu dois poser tes doigts, tu dois, comment tu sais où positionner tes doigts exactement, tu dois retenir tous les 30 minutes où est-ce que tu dois poser tes doigts, où ça devient des automatismes. Enfin, c'est super impressionnant, quoi. Enfin.
En fait, il y a des techniques, il y a des petites, déjà, je suis percussionniste, Alors, il y a plusieurs choses. J'ai une formation de percussionniste et je joue de la batterie, et je joue des percussions. Là, le problème, c'est que le midi, j'ai un gros délai de temps. C'est-à-dire que quand je tape et quand ça sort, il y a presque 10 millisecondes, c'est énorme. Et du coup, je dois anticiper, si je veux, au début de la pièce, il y a un espèce de groove où je suis vraiment dans le temps et là, je dois anticiper, c'est le plus dur. C'est-à-dire que je dois taper avant pour que ça joue pendant. Par contre, là où c'est beaucoup plus simple, c'est que malgré les chapitres, j'ai quand même une notion de l'identité de chaque partie. C'est-à-dire qu'il y a des basses toujours au centre, des kicks ou des basses au centre. Là, j'ai une espèce de snare, mais qui a une fonction snare, c'est-à-dire qu'il y a une fonction, on va dire, caisse claire, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais je sais qu'elle va être plutôt sèche. Et donc voilà, je répartis un peu par famille, à travers les chapitres, toujours la même carte. J'ai toujours la même carte avec des couleurs différentes. Donc ça me facilite le travail. Mais quand je design le son, qui est interprété dans le navigateur aussi, c'est-à-dire que tout est vraiment synthétique, c'est pour ça que c'est un peu bizarre ce qu'on entend, je m'applique à avoir... par exemple, ces deux-là, souvent ils ont des délais. Ils vont... Donc je sais que quand je vais les frapper, ils vont avoir une traînée et ces trois-là, ils vont être accordés avec ce qui se passe. Ils sont plutôt mélodiques ou plutôt harmoniques. Voilà, donc j'ai des petites aides comme ça. Mais effectivement, c'est... Ah oui, d'ailleurs, je peux vous montrer ça. En fait, dans ce programme, là, si on veut vraiment voir... Voilà, c'est ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment le programme. Quand je tape, là on ne voit pas, mais quand je tape, ça se highlight. Là, vous voyez la carte.
Donc ça, c'est celui qui est central, puis ensuite ça part en escargot 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tout ce que vous voyez, le code là, qui a l'air complexe, mais en fait qui est assez simple, hein, les G, B, C, D, c'est des notes. Après j'ai des instruments, kick, wood plank, random c'est aléatoire, c'est-à-dire que je vais appuyer trois fois et trois fois ça va chercher des instruments différents. Donc ça c'est super pratique par exemple. Je vais faire dix fois avec des doigts comme ça, et je vais avoir des choses très 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 très, très différentes. Donc ça c'est l'algorithme qui m'aide vraiment à donner vraiment de la diversité à ma frappe. Donc et puis après, il y a des trucs un peu spéciaux. Dès qu'il y a VV, ça veut dire que la vélocité, la force de frappe, va décider quelque chose. Soit le volume, soit la hauteur de note. Ça va faire... Ça peut faire des trucs comme ça, quoi.
Kevin. Moi j'ai une petite question en fait, parce que là c'est intéressant, on a pu voir un peu l'interaction entre le geste percussif donc, puis le programme. Moi je m'intéressais aussi parce qu'en fait je me suis amusé donc, à retranscrire le texte sur le chat donc, des auditeurs auditrices qui nous écoutent sur la radio, on a un chat et donc je me suis dit que c'était une illustration hein, qui pouvait permettre de suivre un petit peu ce qui défile à l'écran ici. Donc forcément ça m'a... Comment dire, je me suis pas mal plongé dans la couche de texte et en fait, je me suis interrogé, il y a plusieurs endroits. Alors, il y a des illustrations, il y a des endroits aussi avec des phrases un petit peu en exergue. Et voilà, il y a plusieurs, en fait, il y a des listes aussi à un moment. Et je me demandais, en fait, si tu avais réfléchi ou si tu avais pensé, ou tu t'étais posé la question, de la manière dont le code t'avait influencé sur la formalisation du texte, en fait, et sur aussi la structure et la manière dont, à un moment... Est-ce qu'il y a une influence, tu vois, souterraine de la manière dont, justement, à un moment, la langue, en fait, est traitée par l'outil informatique, en fait, où elle est canalisée d'une certaine manière, avec la manière que ça avait pu faire écho avec ta manière d'aborder l'écriture. Et est-ce que ça, justement, il y a c'est un objet totalement différent, mais est-ce que, justement, il y avait des sortes de relations, des ponts que tu pourrais faire entre, justement, ces deux exercices qui sont à la fois très différents, puis en même temps qu'on un objet partagé qui est celui du langage, quoi.
Ben, en fait, encore une fois, moi, c'est la première fois que j'écris vraiment sérieusement. Donc, je ne sais pas comment les gens écrivent. Mais la première chose qui m'a choqué, c'est l'aspect... comment on appelle ça ? Refactoring, en fait. Hein, c'est ça ? Refactoring, donc en code. On écrit un premier draft et puis après, on fait que repasser en permanence sur ce qu'on a fait pour le préciser. Donc, j'ai fait pareil. Mais je suppose que toutes les personnes qui écrivent avec un appareil informatique aujourd'hui font ça. Mais ça, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'assez similaire à la programmation. Et puis après, non. Après, les parties de la nouvelle ont surtout été décidées pour des questions de composition musicale. C'est vraiment l'aspect musical qui a décidé de faire les chapitrages et... La longueur aussi et la diversité des types de contenus, c'est-à-dire figures, listes, on peut dire notes de side notes. Et ça, c'est parce que j'aime la typographie, j'aime la mise en page. Et je voulais vraiment faire un super document. Je voulais vraiment... d'ailleurs vous verrez dans les fanzines il y en a un autre un peu qui dans ce style là j'aime bien l'idée de faire des documents qui frôlent avec l'irréel en fait, qui ont des pouvoirs donc ça c'est typiquement le genre de document pour moi qui a un super pouvoir, c'est celui d'être performé et de pouvoir prendre vie en fait, au-delà de, enfin voilà, de cette manière-là, et surtout très singulier, c'est-à-dire qu'il y en a, il est vraiment le seul à faire ça sur Terre. Ça, j'aime bien cette idée-là.
Et là-dedans, il y a un truc qui te ressemble sur l'ensemble de ton travail, qui est que, je ne sais pas maintenant si c'est toujours le cas, mais tu te définissais pendant longtemps comme artiste numérique. Et j'ai trouvé que tu avais toujours fait attention à ne pas te planquer derrière la technique. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où le numérique est au service du sensible, ou le sensible est au service du numérique. Même dans ton travail de typographe, en tant qu'éditeur de typographie, ce que tu as été, quand tu voyais arriver des caractères, tu fabriquais des caractères, tu publiais pas parce que ça arrivait, mais tu posais la question, est-ce que je me vois l'utiliser ? Donc il y avait vraiment ce truc du rapport de l'humain, entre l'humain et la technique, c'est ce que tu nous présentes là. Et même sur des projets où, dont on a l'impression qu'ils vont s'exécuter tout seuls, en tant que personne, t'es pas du tout caché derrière les pixels, derrière le code, etc. Est-ce que c'est quand t'as fait à la générale cette exposition sur les flûtes, t'as travaillé sur des systèmes d'itération qui viennent du numérique, mais t'as fabriqué des objets qui sont très humains. Donc vraiment, il y a cette espèce de, j'ai l'impression, de préoccupation qui traverse l'ensemble de ton boulot. Est-ce que tu le sais ? Est-ce que c'est un truc auquel tu fais attention ?
Oui, je suppose que je me positionne par rapport à ce que j'aime. Et moi, il y a un bon nombre d'objets numériques culturels qui m'emmerdent, en fait. Et je trouve que c'est dommage, sous prétexte de travailler avec des machines, de ne pas réfléchir à des choses le plus sensible possible. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la confrontation du sensible et des machines, en fait. Mais bon, il y a plein de gens qui font ça différemment. Moi aussi, je tiens à dire que ma maîtrise du numérique, elle est toute relative. Je ne suis pas un excellent programmeur. Il y a plein de choses qui sont dans ce programme imparfaites que je garde ou que je suis obligé de garder. Et je pense que ça crée des choses intéressantes. Et je pense que, j'en parle là, des programmes marchands, je pense que quand il y a un objectif commercial ou fonctionnel, on perd beaucoup de choses dans des programmes. En fait, je pense que les programmes sont communément admis comme des objets numériques qui doivent avoir une fonction et une place dans un marché. Or, il y a plein de gens sur la planète qui font des petits programmes à leur mesure. Et c'est un peu ce projet, c'est un peu un hommage à ces petits programmes. Parce que ça, c'est un projet, on va dire, artistique, mais en fait, n'importe quel petit programme est extrêmement sensible, en fait. Provient d'une sensibilité... qui est, même quand ils ne sont pas terminés, surtout s'ils ne sont pas terminés, c'est génial. J'aurais aimé faire un tour d'Europe pour rencontrer des gens qui n'ont pas terminé des programmes, par exemple. Pour les entendre parler. Voilà.
Est-ce que cette approche de la programmation sensible et des petits programmes, ça peut quand même nous donner un espoir de faire peur aux gros programmes, comment tu les appelais, commerciaux ou marchands?
Ouais, marchands, ouais.
Comment faire, j'en en
sais
vrai
rien. Ouais. Je sais pas. J'espère que moi, j'ai toujours un peu confiance en l'aspect pédagogique du truc, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des générations aujourd'hui qui cherchent un peu des réponses dans l'espèce de brouhaha technologique, et je me dis que ça, j'aurais peut-être aimé le voir en étant étudiant en école d'art, pour pouvoir... D'ailleurs, j'ai vu plein d'autres trucs très chouettes, hein, mais qui m'ont beaucoup influencé, mais comme par exemple le travail de Jody ou des choses comme ça dans le NetArt, ou le NetArt en général. Mais tout ça pour dire que ouais, j'ai confiance en la façon dont un projet culturel peut influencer. Voilà, je me dis que moi, je peux peut-être, à mon échelle, essayer d'influencer, mais je n'ai pas vraiment l'ambition de tuer les gros programmes.
Je voulais revenir sur la question de Kevin sur les chapitrages et l'organisation du texte. Parce que moi, j'étais très, très fascinée. Assez rapidement, j'avais l'impression d'une prosodie, enfin de quelque chose de chanté. Et d'ailleurs, à un moment, il y a le... Je crois que c'est dans le dernier chapitre, il est question de voix. Et que, alors que c'est totalement écrit, que c'est projeté, le fait que ce soit lié, parce que tu dis que ces chapitrages, c'est pour une raison musicale qu'ils sont là. Et en fait, on voit du texte apparaître. Mais comme il y a du mouvement, j'entendais une voix. Enfin, je sais pas comment, ça, c'était assez remarquable et très étrange, mais il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la prononciation. Donc je ne sais pas si c'est ce que tu cherches dans ce truc.
Il y a aussi un autre effet qui renforce cet aspect-là, c'est que quand je lis la force de frappe à la hauteur de note, je peux vraiment faire des phrases, en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert en développant le programme, parce qu'en gros j'ai branché la force de frappe à un peu tout, et au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça paraît logique, mais en fait ça chante quand on tape, ça peut chanter, quoi. Et ça, je l'ai gardé, et je l'ai même développé sur plusieurs types de, sur des trucs très graves, sur des trucs très aigus, sur des woodblocks ou des choses comme ça. Et oui, mais c'est l'idée aussi d'avoir à certains moments des espèces de moments parlés. Ouais.
Bonsoir.
À
l'écran, on a vu des animations, des images un peu avec des hélices. Est-ce que vous pourriez les décrire pour vous? Et qu'est-ce qu'elles représentent? Pourquoi elles étaient là à ce moment-là et à cet endroit-là?
Oui, alors les animations, il y a une samar, donc la samar c'est le fruit de l'érable, hein, l'espèce de truc qui tourne en hélice comme ça, qui tombe en hélice, des rochers, il y a trois yeux, à la fin il y a aussi un brin de thym, et toutes ces illustrations elles sont pas très claires, elles sont un peu, on peut ne pas les comprendre, on peut ne pas les saisir. C'est vraiment un travail d'illustration qui est double, c'est-à-dire qu'il vient d'un travail d'un dessin manuel. Ensuite, il a été transformé en vecteur, donc juste une ligne. Et ce vecteur a été sur ce vecteur a été ont été distribuées des formes en HTML qui vont s'animer en fonction de leur place dans la liste. Le premier va commencer à tourner, puis le deuxième avec un léger contretemps, et ainsi de suite, ce qui crée cette espèce de truc elliptique. Elles ne sont pas placées au moment où on parle directement d'elles. Par exemple, la gargouille, elle arrive, je crois, légèrement avant qu'on parle de gargouille, mais c'est une gargouille. J'avais très envie de dessiner une gargouille. J'avais très envie de dessiner une samar. En fait, c'est vraiment des choses qui me tenaient à cœur. Et en fait, elles viennent d'un carnet. Oui, j'ai oublié de le dire, mais j'étais vraiment sur carnet, quoi. Et voilà, j'ai testé plein de samars différentes, plein de gargouilles. Et je voulais avoir un texte illustré. Et d'ailleurs, la première version du zine, elles sont un peu comme ça. Elles sont un peu... face au texte, et la deuxième version du zine qui a été mise en page par Goulven, que je remercie, qui est en stage chez moi en ce moment et qui a fait ça très bien, on a vraiment mis en valeur les illustrations parce que en fait elles discutent beaucoup mieux comme ça quand elles ont leur propre page le plus souvent, mais ce sont des illustrations qui sont vivantes, qui sont vraiment générées en temps réel, semi-générées en temps réel par le code. Et quand le zine est imprimé, comme c'est du web to print, le moment où la page web est imprimée, donc POMP, CTRL-P, ça fige chacune des animations pour l'objet final. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, le truc tourne sur la page web en permanence, et le moment où on génère le PDF, tac, tout s'arrête. Et on ne peut pas maîtriser l'état des illustrations. Donc j'ai demandé à Goulven, fait plusieurs. Enfin, je lui ai demandé de se focaliser sur la couverture, parce que c'est après tout, c'est ce qui est le plus important. Quand la couverture est cool, alors le reste, on verra. Voilà.
C'est peut-être une dernière question. Juste. Est-ce que tu parles d'interprétation quand tu est-ce que tu joues un morceau, est-ce que tu écris, ça peut varier, est-ce qu'il peut y avoir des variations à chaque projection, ou parce que du coup comment est-ce que tu définirais l'ensemble de ce travail, est-ce que c'est une performance, une écriture, une lecture, est-ce que c'est...
En fait, c'est vraiment à l'intersection de plusieurs trucs que j'aime bien. Et les interprétations sont différentes à chaque fois, puisque ça reste de l'improvisation, selon ces chapitrages qui sont prédéfinis. Y a même un bout de code que j'ai fait là, au dernier moment. Il ne faut jamais faire ça, mais je le fais à chaque fois. Parce que j'avais envie d'éclaircir les accords de fin, et du coup il faut adapter tout, enfin, bon, bref. Et donc il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a un niveau vraiment dans l'instant, où je suis un peu le feeling, comme un instrument traditionnel. Et il y a un truc d'un peu improvisation de code, où... je m'autorise à prendre des risques, à modifier des trucs au dernier moment, parce que le programme est très simple, j'ai pas besoin de le compiler, c'est une page web en fait, donc je peux juste aller très vite, je le connais bien aussi.
Et du coup... ça peut être interprété par une autre personne, ou tu considères que ça peut être interprété que par toi ?
Non, tout à fait, ça peut être interprété par une autre personne. C'est juste que je connais bien le programme et je connais bien, comme j'ai dit, cette espèce de map, je le connais bien. C'est comme n'importe quel instrument, en fait. C'est, chacun peut y jouer, après, ça va, il faut s'exercer.
Il n'y a pas de partition, enfin, il n'y a pas...
Non, il n'y a pas de partition. C'est la seule... Je sais que certaines choses vont sonner de telle manière, et donc je les joue de telle manière. Mais il n'y a pas de partition.
Merci.
Est-ce qu'on passe au côté plus informel ? On a... Merci encore pour ta venue, pour l'interprétation, les réponses aux questions.
Des in, si vous voulez.
Une petite publication. Ouais. Ouais.
Sur la table là-bas.
Format A6.
Ouais, à 6 euros. Il coûte 5 euros. Ils m'ont coûté 5 euros. Donc vous faites ce que vous voulez.
Il y a de très beaux stickers aussi. 3 euros les 3.
3 euros les 3. Mais prix libre, hein. Enfin, si vous avez 2 euros ou 1 euro. Voilà, pour les amis qui sont sur Mastodon, le fait divers, etc. Il y a des stickers fait divers avec l'astérisme symbole du fait divers que j'apprécie particulièrement. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir.